Dans cette période, de plus en plus de personnes souhaitent apprendre la méditation. C'est sans doute parce que nous vivons une crise profonde dans la civilisation qui se traduit par la perte des repères traditionnels et du sens des valeurs. Également, souvent la perte de la foi religieuse, de sorte que les individus sont livrés eux-mêmes dans une société parfois de plus en plus folle au niveau de son mode de fonctionnement. Et donc tout naturellement, dans ces cas-là, on cherche à retrouver en soi-même un fondement aux valeurs qui puissent orienter notre existence, nos choix, nos décisions, notre manière de vivre. Et pour cela, ça implique d'apprendre à se connaître soi-même. Plus que jamais nécessaire. Ce sera le thème de l'atelier après le zazen. C'est un thème éternel. L'origine de la philosophie en Occident, il y a le « connais-toi toi-même » comme un impératif pour toute personne en quête de sagesse. Avec cette indication d'un certain oracle de Delphes, comme quoi si l'on se connaît soi-même, on connaîtra l'univers et les dieux. Comment cela peut-il se réaliser ? En apprenant à se remettre en question soi-même. Dans le zen, on appelle ça le koan, questionner. Ne pas prendre pour acquis les opinions. Décider toute faite que l'on se fait sur soi-même, son existence. Mais accepter de se questionner. Zazen lui-même, Zazen en lui-même est un grand koan. On est assis face au mur, on arrête toutes nos activités habituelles, on ne fait rien, on ne poursuit rien, on ne peut que regarder en soi-même. C'est la fonction du mur, d'ailleurs, de nous renvoyer un regard tourné vers l'intérieur. En ce sens, les gens qui aiment méditer sur les plages ou au sommet des montagnes se trompent complètement. Car face à un horizon vaste, le regard se perd, la concentration disparaît. Pour méditer, il faut s'asseoir au pied d'un rocher, au pied d'un arbre, face à un mur, faire réellement l'effort de tourner son regard vers l'intérieur. Cesser de se laisser séduire, captiver par tous les phénomènes du monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tourne son regard vers l'intérieur? C'est une question à laquelle il ne faut pas répondre trop vite. Et surtout, chacun, même s'il y a des enseignements à ce sujet, doit en refaire l'expérience par soi-même. Vivre profondément l'expérience de qu'est-ce que moi-même, moi. Ego. Et éventuellement s'apercevoir que dès que l'on essaye de donner une réponse, celle-ci est forcément incomplète, insuffisante, provisoire. Il n'y a rien de plus indéfini que moi-même. D'autant que le même accolé au moi participe d'une illusion que le moi serait toujours le même. Et que moi-même serait radicalement séparé des autres, de mon environnement. Alors que la séparation que l'on introduit en s'asseyant face au mur n'est que provisoire, méthodique, pour mieux se concentrer. La question de qui es-tu, d'où viens-tu, que cherches-tu, a été posée des milliers de fois dans les monastères zen par le maître accueillant un nouveau disciple. Qu'es-tu? Que viens-tu chercher ici? Même si, dans ce temple de Gyobu Tsuji, on ne pose pas cette question aux débutants, c'est néanmoins une question qu'il faut les inviter à se poser eux-mêmes. Lorsque le sixième patriarche posa cette question à un jeune moine du nom de Nangaku, qui venait d'arriver, qu'est-ce qui vient ainsi? Même pas qui es-tu, mais quoi? Quoi est-ce qui vient? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Nangaku resta avec ce koan, cette question qu'il médita pendant 7 ans, sans pouvoir y répondre. Comme quoi, si on se pose réellement la question, on ne peut pas trouver de réponse rapide. Sauf à clore superficiellement la question, en se disant « je suis moi, et voilà, je suis moi, et alors ?» Pour finir, il réalisa « Je ne suis pas quelque chose. » Moi, l'ego n'est pas quelque chose. N'est finalement rien de saisissable. Non pas qu'il n'existe pas, mais qu'il n'est pas saisissable. On verra tout à l'heure que c'est probablement plus une fonction qu'une chose, qu'un être. Et si ce moi est insaisissable, le sixième patriarche demanda néanmoins à Nangaku, mais existe-t-il néanmoins pratique et réalisation? Il y a bien quelqu'un qui pratique, y a-t-il réalisation? Quelle réalisation? Qui réalise quoi? Nangaku de répondre, il y a bien pratique et réalisation. Et cela ne doit pas être souillé. Qu'entendait-il par souillure, souillé? En japonais, c'est zenna. La souillure dans la réalisation de soi, c'est tout ce qui est de l'ordre de la séparation, de la discrimination. C'est-à-dire tout ce qui est le produit du mental ordinaire. Pour tenter de répondre à ces questions, procède comme Descartes, par analyse, séparation. Et du coup, perd de vue la totalité. Alors le sixième patriarche se réjouit de cette réponse de Nangaku en lui disant cette non-souillure, est-ce que tous les éveillés du passé ont réalisé et protégé? Protège cela aussi. Comment pouvons-nous faire pour nous interroger sur nous-mêmes, notre propre ego? Tenter de répondre à la question sans créer de souillure, c'est-à-dire de séparation. Pour cela, il faut changer de registre. Votre mental ordinaire ne sait pas réaliser cela. Changer de registre signifie penser du très fond de la non-pensée, penser avec le corps tout entier, ne pas laisser notre pensée s'enfermer dans des catégories mentales. C'est le propre de l'état de conscience en zazen, hi shiryo, au-delà de la pensée discriminante. Un mode de pensée, un état de conscience englobant. On appelle l'esprit vaste ou l'esprit de Bouddha. L'esprit éveillé. L'esprit qui s'harmonise naturellement avec la réalité. Qui est beaucoup plus vaste que le mental ordinaire ne peut en saisir. Aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Et les deux à la fois, vu qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre les deux. C'est ce que nous allons tenter de clarifier ensemble dans ce séminaire. Sachant qu'une réponse rapide n'est pas possible, mais des chemins, une voie peut être tracée, une direction pour notre pratique.